I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant, et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Gagner sa vie grâce au stand-up, ça peut vouloir dire plein de choses. Dans l'épisode précédent, on entendait Shirley Soignon et Tania Dutel qui gagnent leur vie principalement grâce à leur passage sur scène. Mais pour de nombreux autres stand-uppers, les sources de salaire sont multiples. Certains dénichent grâce au stand-up des boulots d'écriture, d'autres décident pour gagner quelques sous de donner des cours. Beaucoup gardent à côté un job alimentaire ou touchent des indemnités Pôle emploi ou encore le RSA. Les situations sont rarement stables et peuvent énormément évoluer d'un mois sur l'autre. Quand j'ai pensé à faire un épisode sur les personnes qui ont trouvé un travail grâce au stand-up, sans forcément en vivre directement, j'ai tout de suite pensé à Rémi Boy, que vous avez déjà entendu dans le premier épisode. Je l'ai rencontré en 2015, quand je faisais moi-même du stand-up et qu'il venait de se lancer. Pendant des années, ses performances lui ont fait guise de tremplin pour vivre de l'écriture.
C'est pas très modeste de dire ça, mais j'ai jamais vraiment eu d'illusion, moi. Genre, je pense que je me suis toujours dit que, un, je percerais pas, deux, je serais jamais extrêmement drôle. Et je me suis toujours dit que je faisais ça vraiment pour le fun, mais c'est que j'adore faire du stand-up. Et je n'ai pas vraiment d'ambition dans la vie en général, quoi. Je me dis que si ça s'arrête du jour au lendemain, bah, j'irai bosser ailleurs, quoi. Mais à la base, moi, j'écrivais avant le stand-up. Enfin, du scénario et des trucs comme ça, j'écris depuis que je suis tout petit, mais pour le fun, tu vois. Et quand j'ai commencé stand-up, ça m'a permis de rencontrer des groupes de... Enfin, souvent, c'était youtubeurs ou des trucs comme ça, qui m'ont filé du taf d'écriture. Au début, tu galères un petit peu, enfin, c'est pas trop payé, tout ça, et plus tu fais grandir ton CV et ton expérience dans l'écriture, plus t'as des tafs un peu mieux payés, des trucs comme ça, et puis c'est comme ça que t'as envie, je pense. Bah, le premier truc d'écriture qui m'a mis le pied à l'étrier, c'était What the Fuck France, le truc de Paul Taylor. Il avait fait une émission sur Canal à la suite de sa vidéo de la bise.
Hi, my name's Paul Taylor. I'm English, but I live here in France. And one of the things that I've never understood is the obsession with wine. What the fuck, France?
Et ça, j'étais juste dans le pool d'auteurs, quoi. J'écrivais des blagues avec eux. J'étais pas scénariste sur le truc, juste j'écrivais des blagues. Et ça m'a mis un petit pied sur le truc. Parce qu'une fois que j'avais ça dans le CV, entre guillemets, après j'ai fait la météo, j'écrivais les chroniques, enfin je co-écrivais avec Camille, du coup, les chroniques de la Miss Météo de Canal+. Genre tous les jours, on devait écrire entre 3 et 5 minutes de blagues pour du direct sur Canal.
Camille Lavabre, c'est la Miss Météo de Canal+, depuis 2017. T'as trouvé ce taf de Miss Météo grâce au stand-up. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus ta rencontre avec Camille? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est goupillé au début? Comment t'as été choisie aussi?
C'était le 22 mars 2017. Il pleuvait, je me souviens. Non, en vrai, je crois que c'était au labo, en vrai.
Parce que labo du rire.
Ouais, encore une fois, quoi. C'était... Ouais, non, mais c'est juste on joue ensemble parce qu'elle faisait du stand-up, Camille. Je crois que Camille, elle cherchait des auteurs. Et elle avait discuté avec Kian qu'aujourd'hui.
Il a rayé kayak. Il m'a dit...
On vous rappellera.
J'ai entendu.
Pas tout le reculé.
Bref, j'ai passé un entretien d'embauche.
Et c'est lui qui a dit à Camille, ça serait cool que tu bosses avec Rémi. Et elle, enfin vu qu'on avait déjà bossé ensemble, elle a dit oui tout de suite.
C'est quoi le truc le plus dur quand tu fais ça?
Bah c'est juste que tous les jours, tu dois écrire 3 minutes qui passent en direct. Donc Ben, ça a intérêt à être drôle, quoi. Surtout que les conditions, la première année, c'était dur de ouf, parce que le plateau, il était sacrément froid, il n'y avait pas de public. Donc c'était comme si j'écrivais une chronique radio pour 4-5 personnes, mais qui sont filmées. Donc du coup, en plus, ils savent qu'ils sont filmés, les gens, donc c'est beaucoup plus difficile de rigoler, des trucs comme ça. Plus, c'est l'exercice de la Miss Météo. Donc on voulait vraiment faire attention à pas faire une Miss Météo classique, tu sais, un petit peu à l'ancienne. Parce que tu sais, quand c'était dans le Grand Journal, le truc comme ça, il y avait un énorme public, donc elle arrivait déguisée, elle faisait des blagues sur ça. Là, on avait vraiment 4 personnes, Yves Calvi qui venait de parler de la Syrie, genre 10 minutes avant, on pouvait parler « Bonjour à tous, donc voilà !» Donc ouais, c'était vachement dur, un, de trouver le style d'écriture de la météo, deux, de trouver un style de blague qui pourrait marcher juste sur un plateau un peu froid, et trois, pour pas être en dépression, quoi. Et après, je l'ai fait 2 ans, donc la deuxième année c'était mieux, parce que là justement il y avait un public, c'était un peu plus facile, et voilà.
Il me fait « Ouais, mais toi aussi tu me chauffes avec ta jupe de chouin, je sais pas quoi. » Je fais « Ah ouais, tu vois comment je vais te chauffer la gueule maintenant. » Tu sais quoi, j'ai fait une prise en deux, il était sur le sol. Oh, sur ma vie, c'est quoi ces gens? Mais de toute façon, je vais te dire un truc. Les mecs, c'est comme la météo au printemps. Pour pas être emmerdé, on sait jamais comment s'habiller. Allez, envoie les cartes.
Et comment tu les écrivais, ces blagues?
Au début, on était un peu en avance, mais on a vraiment fini par écrire du matin pour l'après-midi. Genre vraiment, on se captait le matin vers 9-10 heures, on écrivait jusqu'à 13 heures, un truc comme ça, et ensuite, elle tournait vers 15 heures, et puis on faisait ça tous les jours. On n'arrivait pas à écrire en avance.
Et tu l'as trouvé comment, l'inspiration?
Souvent, on avait la liste des invités, donc on savait quel invité allait venir, mais même pas à chaque fois. C'est à ce point-là que c'était difficile. Putain, des fois, tu devais écrire une chronique sur quelqu'un, tu savais pas qui c'était. C'est un très mauvais départ pour écrire une chronique. Mais moi, ma technique, c'est je prends le sujet ou un truc qui est relié à l'invité, et ensuite, je vais passer une heure à juste écrire un max de blagues, juste vraiment des one-liners, tu vois, juste des blagues, une phrase ou des tournures de phrases qui me font rire, en écrire un max, et ensuite, en utilisant ça comme support, le coller soit dans une... Souvent, je faisais sorte d'histoire parce que c'était souvent des personnages, donc il suffisait que le personnage ait une histoire, le truc classique de qui je suis, voilà pourquoi je suis là et pourquoi c'est marrant, quoi. Et j'essayais de caler le plus de blagues possible et qu'il y ait le moins de vide entre les vannes, quoi. À peu près comme ça.
En quoi ton expérience dans le stand-up a pu t'aider dans l'écriture de ces chroniques pour la Miss Météo?
En vrai, vu qu'il y avait beaucoup de personnages dans la météo, c'était pas vraiment... Enfin, quand tu fais stand-up, il y a plusieurs types de blagues, tu vois. Des blagues comme je disais tout à l'heure, des one-liners, c'est vraiment des vannes ou c'est juste des punchlines, des trucs très efficaces qui vont très vite. Et après, il y a le truc qu'ils appellent des moments de jeu ou des act-out en anglais, et c'est quand tu vas illustrer ta blague par un moment d'acteur, quoi, où tu vas vraiment jouer ta blague, où tu vas faire tes voix, tu vas jouer les personnages. Et souvent, c'est là où t'as le plus gros rire, c'est quand tu joues la vanne que tu viens d'expliquer avant, plus ou moins. Si tu fais juste le début, les gens ils rigolent pas forcément, ils sont genre hey, c'est malin ça, mais tant que t'as pas fait la blague derrière, tant que tu l'as pas joué, t'auras pas le rire. Et quand j'écris pour la météo, souvent je me retrouvais à presque écrire que des passages comme ça, où il fallait vraiment que je fasse directement le truc drôle quand c'est joué. Donc c'était plus écrire comme si c'était plus pour une séquence dialoguée dans un court-métrage, plus que pour du stand-up, parce que au final c'était quand même la performance d'acteur entre guillemets pendant 3 minutes, quoi.
Est-ce qu'on peut parler de salaire?
Globalement, c'est un bon concept, ouais. C'est vraiment d'avoir tous les mois de l'argent. Je le conseille à tout le monde.
Est-ce que tu peux me dire, tu pourrais me donner une fourchette de combien tu gagnes à l'année?
En stand-up?
Ouais.
Ça dépend des mois. Hein. Mais bon, franchement, je suis pas beaucoup plus que le SMIC, je pense. Hein. Encore une fois, moi, je suis pas très connu. Hein. Donc, c'est plus l'argent, je l'ai soit sur les plateaux, soit sur les cachets. Et sur des fois des plateaux un peu plus grands où t'es payé genre 1000, 1500 euros, un truc comme ça pour jouer. Mais c'est super rare. Enfin, à mon stade, c'est super rare. Après, je suppose que pour des comédiens un peu plus... Et puis, j'ai pas de spectacle aussi. Moi, je vis que des plateaux. Les gens qui ont des spectacles, je pense qu'ils peuvent avoir des vrais salaires, entre guillemets.
Après Rémi Boy, j'ai décidé de retrouver Alex Nguyen. Lui aussi, je l'ai connu quand je débutais dans l'humour. Il était à ma connaissance le seul à proposer des cours de stand-up à Paris. Si ses spectacles ne lui permettent pas de vivre, ses ateliers lui ont apporté l'opportunité d'avoir un travail directement lié à sa passion.
Mais je sais que pour les jeunes, pour percer, c'est être millionnaire.
Toi, t'estimes que t'as percé ?
Non, j'ai pas percé encore. J'ai pas percé. Mais... je reprends aussi même des gens, je regarde pas mal de vidéos YouTube et des gens ils disent qui ont percé dans YouTube, ils disent nous on a démarré, il n'y avait pas de pub sur YouTube, on l'a fait pour le plaisir, on faisait des vidéos sur Dailymotion. Et c'est vrai que maintenant les humoristes d'aujourd'hui, pas tous, mais ils pensent vraiment beaucoup à l'argent. Je peux comprendre parce qu'on leur met toujours la pression sur l'argent. Donc il y a un côté plus mercantile qu'avant. Avant, depuis l'arrêt, même si Kev Adams, ça fait longtemps qu'il est là. Hein. Mais avant, on ne pensait pas à mettre autant de marketing. Kev Adams, pour ceux qui ne connaissent pas, il a démarré avec un t-shirt « I love Kev » en disant « je suis le jeune, j'ai 17 ans », alors qu'il y avait d'autres humoristes qui avaient le même âge que lui, qui ne se marketaient pas le jeune. Et bon, voilà, malheureusement, ils n'ont pas percé autant que Kev Adams. Donc maintenant, tout le monde... Il y a une génération qui a commencé grâce à Kev Adams, c'est comme ça. Ils ont vu le marketing et les effets bénéfiques. Et donc maintenant, ils démarrent tous comme ça avec un pseudo, une imagerie, un secteur de marché. Que nous, à l'époque, on n'avait pas ça. On se disait pas, tiens, je vais toucher tel marché, je vais avoir une tenue officielle. On ne pensait pas comme ça, on voulait faire juste des blagues.
Toi, tu as commencé le stand-up il y a 10 ans. Et il y a 5 ans, tu as commencé à faire des cours. Ouais. Pourquoi et comment tu t'es lancé dans les cours ?
Comment je me suis lancé dans les cours, en fait, j'avais un ami avec qui je faisais des premières parties, qui faisait des cours, qui avait une grande école de théâtre. Et voilà, ça s'est fait comme ça, on a fait un cours, puis après j'ai monté mon propre cours, et voilà, ainsi de suite, ça s'est fait comme ça.
Comment ça se passe un cours avec toi, un cours de stand-up ?
Un cours de stand-up, moi j'essaie vraiment d'être dans la pratique et de faire des conseils personnalisés. Par exemple, des fois, des gens ont un problème d'élocution. Des fois, des gens, ils arrivent, ils n'ont aucun problème d'élocution. Ils s'expriment 1000 fois mieux que moi. Donc, j'essaie vraiment de faire des conseils personnalisés à la personne et ce qu'elle demande, sur quoi elle est en attente. Ce n'est pas hyper standard. J'essaie de faire aussi des nouveaux exercices. Tous les 15 jours, d'avoir des nouveaux exercices pour que ça stimule les élèves. Là, on fait un petit jeu, un petit concours entre nous. C'est chacun monte sur scène. Et voilà, il y a le premier rang, on va dire, il y a 5 personnes. On va dire, il y a 3 personnes plutôt. Et ils donnent un mot. Par exemple, ils disent voiture. Le mec qui est sur scène doit faire une blague sur ce thème-là en 15 secondes. Après, l'autre, il dit immeuble. L'autre, il dit chocolat. Et après, ils votent pour savoir quel est le meilleur. C'est pour leur montrer que... Il faut quand même qu'il y ait une urgence dans la blague. Il ne faut pas que la blague, quand ils disent un mot, bah, ils cherchent une solution. Il faut qu'il y ait une urgence, que la blague elle arrive dans pas longtemps. Ça ne doit pas durer plus de 30 secondes. Et ça les oblige à chercher. Ils voient des fois, ils trouvent des trucs marrants en improvisant.
Donc voilà, moi je trouve les gens, ils ne choisissent pas bien leur travail. Et parce que l'autre fois, j'ai un pote, il vient me voir, il me dit « Moi, j'ai trouvé un super travail. Je l'aime bien ce travail parce que j'ai plein de vacances. » C'est bizarre. Non, choisir son travail parce qu'on a plein de vacances, c'est comme choisir de faire l'amour pour prendre une douche.
Il me semble qu'avant, tu avais un travail plus sérieux.
Ouais.
Est-ce que tu peux en parler de comment tu as transitionné de ce travail au stand-up ?
Avant, j'étais donc salarié, je travaillais dans l'informatique. Et la transition, je vois beaucoup d'interviews aussi de gens qui disent j'ai tout quitté pour faire ci, ça. Après, il faut que les gens comprennent, c'est que les médias, les réseaux sociaux, c'est comme du storytelling. Ils racontent des choses. Moi, ma transition s'est faite tout doucement. Et après, dans l'absolu, ça m'a fait une grande perte de revenus, de pouvoir d'achat. Bon, c'est pas grave, mais c'est que bien sûr que dans les médias, on va raconter autre chose, ou dans les spectacles, on va raconter autre chose qui est un peu moins vrai. Donc ça s'est fait avec plein de paramètres qui sont personnels, qui fait que j'ai moins consacré du temps au salariat, mais je l'ai transposé autrement. Donc après, j'ai fait aussi du freelance, donc c'est un peu plus nuancé que je me suis réveillé un dimanche et lundi, j'étais comédien.
Après avoir passé 3 épisodes à me questionner sur comment se lancer et vivre du stand-up en 2019, il m'a semblé évident que je ne pouvais conclure cette série sans parler d'un problème tout autre auquel peuvent être confrontés tous les humoristes, les débutants comme les professionnels. Le vol de blagues. Et t'as déjà volé une blague, toi, à tes débuts ?
Ouais, j'ai déjà volé une blague à mes débuts, c'est la première fois que je le dis avec plaisir en plus, ça a duré 2 semaines, je me suis senti tellement mal de l'avoir volé que j'ai arrêté de la faire, j'étais « Ah, c'est pas bien » et tout.
La suite, au prochain épisode.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.